Je suis très heureux de vous retrouver sur la Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes toujours très heureux quand nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre alors sur la 93.5 et que vous êtes branchés à partir de 11h déjà pour suivre l'émission Club de la Presse. Nous sommes aujourd'hui alors au vendredi 20 septembre 2024. Il sont 11h sur votre radio. Vous comprenez sans doute que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre. Nous sommes au cinquième numéro pour le compte alors de cette semaine. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa est à la mise en œuvre. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Merci à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekro, Radio La Paix à Takpane, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daou à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Nous sommes également très heureux que nous savons que vous nous écoutez partout dans le monde et vous nous suivez partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, mais bien évidemment nos radios partenaires en ligne aussi relaient cette information, c'est bien, et Radio Lébéné et Ibn Radio. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse et le débat sur l'actualité de notre pays. Et d'ailleurs, c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Firmin Tekouabo. Bonjour.
Bonjour Pascal Lossou, merci de m'avoir invité.
J'espère que tu vas bien.
Oui, bien.
Comment tu as passé la semaine?
Oui, la semaine bien, de façon très paisible avec la grâce de Dieu. Et un peu augmenté aussi avec ce que nous faisons, on va de médias à médias. Pour parler aussi au niveau de notre centre. Nous avons eu à tenir assez de réunions. Vous savez que nous sommes en pleine transition constitutionnelle et notre centre se dit il faut distiller, disséminer quand on parle des articles pour que tout le monde, au moins, bon, c'est pas exagéré, mais pour que tout le monde, ou ne serait-ce qu'un petit nombre, arrive à maîtriser un peu les articles fondamentaux de la Cinquième République, surtout ceux qui ont trait à la transition constitutionnelle, à la mise en place des nouvelles institutions de la Cinquième République. Et cette semaine, nous avons mis un accent, vous l'avez découvert sur les réseaux sociaux, nous avons mis un accent sur l'article 36 de la Constitution du 6 mai, et cet article parle du candidat aux fonctions de la présidence de la République. C'est-à-dire, qui va être le prochain président de la République? Il va réunir un certain nombre de critères, il doit être exclusivement de nationalité togolaise de naissance, il doit être âgé d'au moins 50 ans, révélant la date du dépôt de la candidature, il doit jouir de tous ses droits civils et politiques, il doit présenter un état général de bien-être physique et mental, du mal constaté par 3 médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle, il doit résider sur le territoire national depuis 12 mois au moins. Donc, c'est l'article 36 qui nous a intéressés cette semaine. Les semaines à venir, nous allons permettre à tous ceux-là qui s'intéressent à ce qu'on fait de découvrir d'autres articles. Mais, pour conclure, l'intérêt pour lequel nous faisons ceci, c'est accompagner l'État, dire sur l'État, c'est-à-dire c'est l'État qui va mettre en place les institutions, dire à ceux qui dirigent que nous avons, le temps que nous avons est tellement restreint. Quand il faut mettre en place toutes ces institutions de la République, parce qu'il faut mettre en place le Sénat, le président de la République, la nouvelle RAC, le protecteur du citoyen, donc la présidence du Conseil des ministres, c'est assez de responsabilités, mais le temps est trop réduit. Donc il faut qu'on aille un peu plus vite pour que la République puisse bien se porter.
Mais il faut ce travail alors de sensibilisation pour que les uns et les autres soient imprégnés de cette nouvelle constitution. C'est ce travail-là que vous êtes en train de faire, je pense bien.
Évidemment, parce que nous avons remarqué à un moment donné que nous avons des constitutions, nous avons de très beaux tests, mais nous ne les maîtrisons pas. Donc, c'est notre devoir, de le faire. Quand on parle de droits et devoirs du citoyen, je pense que tout cela rentre dans ce travail de dissémination que nous sommes en train de faire.
D'accord. Merci beaucoup, Firmin Teku Agbo, d'avoir répondu à notre invitation. L'autre confrère également homme politique, si je peux m'exprimer ainsi, qui a répondu à notre invitation, c'est bien Donatien Ouessor. Donatien, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à nos chères auditrices, auditeurs. Permettez-moi d'entrer de jeu, de parler de, que ce soit à l'ancienne ou à la nouvelle constitution, on est là-dedans, c'est le Togo, ça ne change pas, on ne va pas aller sur le territoire béninois, on est toujours togolais. J'aimerais parler de, d'un article qui, là-bas, met l'accent sur la vie humaine qui est sacrée. Et ici, je m'adresse à nos praticiens hospitaliers, surtout au CHU, Sylvanus Olympio. Je les encourage, hein, ce travail n'est pas facile, à se sauver la vie humaine. J'aimerais bien que les autorités puissent mettre en place la gratuité des frais des premiers soins. De grâce, des gens meurent par négligence, par nonchalance. Quand vous amenez des accidentés, il faut quand même qu'on prenne soin de la personne avant de voir qui sont ses parentés, s'il y a des frais à régler. Il ne faut pas qu'on exige d'abord que les gens puissent verser une certaine somme ou qu'on laisse des gens se tordre de douleur durant des heures avant qu'on ne vienne, alors que quand il s'agit de la santé, il suffit de quelques secondes pour des commotions cérébrales ici et là. J'ai perdu une personne chère à moi, raison pour laquelle je soulève ceci, tout en félicitant le travail qui est fait au CHU, Sylvanus Olympio, ainsi que les autres hôpitaux publics, mais qu'on mette l'accent sur la prise en charge gratuite d'abord, hein, les frais gratuits des premiers soins, parce que ce sont les êtres humains qui font un État, qui font une République. On ne va pas gouverner une terre seule sans être humain, parce que des fois, ça fait mal d'entendre qu'on a laissé quelqu'un durant deux heures et la personne est décédée, ou soit de mauvais traitements. On coupe mal des gens et des années après, la personne a des séquelles et on meurt. Les Blancs ne vont pas nous respecter ainsi. On continue ainsi.
Je rappelle que vous êtes conseiller municipal dans la commune alors du Golfe 5. Alors, comment vous vous définissez finalement?
Ah ben, je suis un citoyen togolais qui m'intéresse à la chose publique, ce que plusieurs se défilent de faire. Quand vous êtes un citoyen, vous devez quand même... Quand on dit droit et devoir, n'attendez pas seulement de jouir de vos droits, faites aussi votre devoir. Et moi, je me suis mis dessus que je ferai la politique envers et contre tous, et je le fais avec ceux qui sont de bonne foi, ceux avec qui nous travaillons. Et ici, je salue les administrés de la commune Golfe 5, tous ceux qui nous ont fait confiance, et surtout en cette veille de la rentrée où nous avions fait un don de kit scolaire à des élèves dans la commune de Golfe 5. Félicitations à tous ceux qui étaient avec nous, et que ceux qui pensent qu'on va cueillir l'argent quelque part, c'est de notre propre sueur à nous. Nous ne sommes pas de ceux-là qui prennent l'argent pour payer les frais de loyer des endroits qui n'existent pas. Merci beaucoup.
D'accord, merci Donatien. Si tu te définis comme un citoyen, il y a un autre citoyen également à côté de toi, c'est bien M. Kofi Anani. M. Kofi, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour aux auditeurs et auditrices.
J'espère que tu vas bien.
Vous êtes très bien, par la grâce de Dieu.
Par la grâce de Dieu, ça va bien. Et là, vous êtes bien observateur, hein, même d'ailleurs, de la scène politique et aussi de la vie sociale, même d'ailleurs, de notre pays, puisque depuis un temps, nous avons bien pris, hein, sur nous d'élargir un tout petit peu notre plateau également à d'autres personnes pour que chacun et chacune vienne donner plutôt alors son point de vue aussi sur des situations données de notre pays, surtout sur l'actualité, puisque c'est un travail, c'est un débat que nous aurons à faire ensemble. Alors, chers confrères, alors nous commençons cette émission avec... oui, Firmin?
Non, en fait, moi je voudrais revenir un peu sur ce que Donatien a dit, qui est vraiment intéressant. Moi, je me dis toujours, je vous dis quelque chose de bizarre, même si vous n'êtes pas d'accord. Vous savez, moi je me dis, depuis un moment que le jour, la première fois que moi je veux, le président de la République, je vais m'agenouiller pour lui dire, monsieur le président, que les premiers soins soient gratuits dans tous les hôpitaux. Parce que je vois des choses extraordinaires. Des gens qu'on amène à l'hôpital, qui se tordent de douleur, mais face à ces personnes, et il y a juste comme un certain immobilisme, une certaine indifférence vis-à-vis de la douleur de ceux-là qu'on allait. Et puis, on va vous demander, mais la personne se trouve de douleur, vous êtes obligé, vous qui avez amené la personne, d'aller chercher des produits avant que ne satisfasse la personne. Or, cette personne peut mourir. Or, à ce moment-là, on peut chercher à baisser la douleur de la personne, à s'occuper de la personne pour ramener un peu la personne à un état normal avant qu'on lui demande, mais qui sont tes proches, qui t'ont amené? Ça, c'est extraordinaire ce que nous vivons dans nos hôpitaux. On sait qu'il y a des choses qui se font de façon extraordinaire. On sait qu'il y a des efforts qui se font au niveau du gouvernement. Mais les premiers soins dans nos hôpitaux, que ce soit gratuitement, je ne sais pas si le président de la commune me connaît, mais je me dis, il ne me connaît pas. La première fois que moi je me verrai en face comme ça, je vais lui dire, monsieur le président, c'est moi qui m'étais comme je suis journaliste, c'est un journaliste, s'il vous plaît, la prochaine décision que vous prendrez, rendez gratuit les premiers soins dans nos hôpitaux.
D'accord. Oui, mais c'est passionnant. Hein.
Oui, c'est passionnant, bien sûr.
C'est passionnant ce débat. Et justement, on a improvisé même d'ailleurs ce premier sujet comme cela, parce que ça tient à cœur justement aux populations. Oui, M. Kofi.
Oui, Pascal, j'aimerais revenir à quelque chose que l'aîné Fionnet vient de dire tout à l'heure, par rapport au travail de sensibilisation qu'ils sont en train de faire sur la nouvelle constitution. J'aimerais d'abord vous jeter des fleurs et merci. Par l'occasion inviter ceux-là qui se disent opposants, ceux-là qui se disent politiciens. Et par ricochet, je m'en vais aussi lancer un message à mon frère qui est à côté de moi ici. Écoutez, ce que fait Firmin aujourd'hui là, ce qu'il vient de nous dire, ça fait partie de la mission d'un politicien dans un pays. Nous sommes arrivés à un moment où nous avons une constitution et il y en a qui ne sont pas d'accord.
Et donc, justement, j'ai une constitution qui est contestée.
Voilà, qui est toujours contestée à l'heure actuelle. Mais je pense que le vin étant déjà tiré, la seule chose qu'on a à faire, c'est de le boire. Et de mener jusqu'à ce que les organes de l'État ne soient mis en place, les nouveaux organes de l'État, selon la nouvelle constitution, ne soient mis en place, il faut que les opposants puissent se mettre au travail. Un travail de sensibilisation de la population. Ce ne sera pas seulement à Lomé, que ça ne se fasse pas seulement à Lomé, mais dans les coins et recoins de ce pays.
Mais ce que c'est pas paradoxal.
Quand on pense
déjà que cette constitution reçoit même d'ailleurs des contestations, et il y a même des manifestations qui sont organisées pour, en quelque sorte, pour qu'on retire cette constitution. Mais finalement, quand on va faire le travail de sensibilisation tel que vous le dites, est-ce que finalement ce ne serait pas paradoxal?
Écoutez,
les docteurs pourront s'énerver, les infirmiers pourront s'énerver de ce que nous venons de dire, parce qu'ils diront qu'il n'y a pas le plateau technique, le matériel n'est pas là. Vous allez voir peut-être 20 lits pour 50 patients. Mais tout au début de cette semaine, même, nous avons appris qu'il y a des acquisitions du matériel,
justement du matériel,
de l'encouragement. De l'encouragement, parce que j'ai perdu un ancien élève, un ancien élève qui a eu un accident. Et voilà, c'est ça qui me met dans cet état de toucher encore la plaie là pour que l'État puisse voir la gratuité des premiers soins. Sinon, les gens laissent les accidentés en chemin parce qu'ils ont peur lorsqu'on les amènera à l'hôpital. C'est vous qui allez payer les premiers soins. C'est pourquoi
d'accord. Ça se comprend.
Thierry Fanoukoui, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent et bonjour également aux amis qui sont tout autour de la table.
J'espère que tu as bien passé la semaine.
Oui, ça va.
D'accord. Nous sommes en train de parler de cette question de premiers soins dans les hôpitaux. Aujourd'hui, c'est une exigence même d'ailleurs de la population.
Oui, malheureusement, cette population n'est pas écoutée par le gouvernement parce que ce débat-là ne date pas d'aujourd'hui. Et plusieurs sont passés par là et aujourd'hui, ils ne sont plus parmi nous, tout simplement parce qu'ils ont été négligés. Les premiers soins n'ont pas été apportés à temps et les gens ont laissé leur vie dans cette affaire-là. Ce n'est pas seulement les premiers soins, les soins en général dans nos hôpitaux. Il y a trop de négligence. C'est vrai que le Saint-Foc a entre-temps lancé une campagne pour sensibiliser les agents de santé par rapport à l'accueil, par rapport à l'assistance même aux patients. Tout ça là, C'est déplorable dans notre pays. Et c'est dans ça qu'on est. Et au même moment, on nous parle d'AMU. Je me dis, je ne sais pas, je ne maîtrise pas tous les contours concernant l'assurance maladie universelle. Mais du moment où ça va prendre en charge les Togolais, je me dis que peut-être il y aura une ligne pour que les premiers soins soient apportés aux patients une fois que vous franchissez les portes des centres hospitaliers. En attendant, c'est d'ailleurs, c'est ça l'existence d'un gouvernement, à apporter des solutions aux besoins de la population. Mais quand on ne le fait pas, je crois qu'il y a problème, je crois qu'il y a une démission. Maintenant, on dit, on renforce ce qui existe en matière de matériel médical dans les hôpitaux. On attend de voir, est-ce que ce début-là sera à la hauteur des besoins? Parce que, ne perdons pas de vue, nous sommes en 2024, et il y a des centres hospitaliers, quand vous vous y rendez, des fois vous couchez à même le sol. Quand on le dit, il y a tout un boucan autour de ça, mais c'est la réalité, c'est notre quotidien. La négligence des personnes soignantes, ça fait que nous perdons des gens comme ça. Il faudrait, je crois, avec l'arrivée du nouveau ministre, j'ose croire que les choses vont changer, mais si c'est toujours le statu quo, je crains aussi qu'on puisse réussir ce pari de l'AMU.
D'accord. Et oui, Fénin, serait Thierry au bouquet cette question de l'AMU, l'assurance maladie universelle. C'est vrai que ça a été mis en vigueur, même d'ailleurs depuis le début de cette année, c'est-à-dire le 1er janvier 2024. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un pas qui est fait, un pas qui est franchi avec la mise en vigueur alors de l'AMU?
Non, le pas qui est franchi, c'est qu'on a mis en place l'AMU. Moi, je pense que
c'est mettre en place l'AMU, mais il faut pas me coller. Qu'on arrive à comprendre qu'il y a la pratique alors de l'AMU.
Oui, ça veut dire qu'il y a déjà une certaine volonté. On veut rendre la santé universelle, l'accès aux soins universels, ça c'est déjà une volonté. Il faut déjà la saluer. Mais encore que cette volonté se manifeste que dans la pratique, cela soit observé. Vous savez, avant, moi, je critiquais beaucoup INAM, mais j'ai suivi deux cas. Et c'est comme j'ai failli ravaler mes crachats. INAM a sauvé deux personnes devant moi comme ça. Si ces personnes-là, que je connais très bien, n'avaient pas souscrit à INAM, je pense que peut-être ces personnes-là seraient en toute difficulté aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je ne critique plus trop. Peut-être aujourd'hui, à nous, ne sert pas encore grand nombre, ou ne satisfait pas encore grand nombre, mais je sais que le fait qu'on ait mis en place AMU, c'est déjà une victoire pour la santé. Encore qu'il faut que AMU, dans la pratique, devienne une réalité, pour que tous les Togolais aient accès aux soins. Ce qu'on demande, c'est que tous les Togolais, que tu sois riche ou pauvre, quand tu tombes malade, mais que tu sois bien soigné. C'est tout ce qu'on demande. Et après, s'il faut régler peut-être 20%, 10%, que tu arrives à le régler. Mais la première des choses que tout le monde attend, c'est que du nord au sud, de l'ouest en l'est, que nous serons bien soignés. Parce que c'est lui, de la CHU, ils ne sont pas d'accord avec nous. Ce qui va construire ce pays, c'est qui? C'est nous, les Togolais. Si on n'est pas en bonne santé, si on perd des ressources, si on perd des intelligences, qui va construire le pays pour nous? On a besoin de tout le monde. La vie humaine, constitutionnellement, elle est sacrée. Alors, il faut qu'on la respecte. Il faut que nous devienne véritablement une réalité. Mais même, c'est normal que les gens critiquent. Parce qu'il y a des choses qu'on a eu à promettre dans ce pays qui n'ont pas été réalisées. Mais je connais aussi au niveau de Ouézou. C'est
Ouézou.
Ce que Ouézou apporte aussi. Quand vous allez un peu dans certaines contrées, mais même ce que Ouézou apporte, c'est extraordinaire. Mais des fonds critiques, il y a des choses. Mais c'est parce que, c'est une crise de confiance, au fait. Parce que ce gouvernement, il y a des choses, quand le gouvernement le fait, même si c'est bien, mais du moins, les antécédents avec ce gouvernement sont énormes. Les gens disent, non, c'est mauvais, il veut vous faire du mal. Alors qu'il y a des choses extraordinairement bonnes que le gouvernement fait. La meilleure des choses que moi je souhaiterais à ce gouvernement, ou que je lui demanderais en toute humilité, c'est d'arriver à faire sauter ce cri de confiance qui est entre nous, le gouvernement et le peuple togolais.
D'accord. Oui, mais M. Koufi, c'est vrai que quand on prend aujourd'hui l'AMU, dans sa faisabilité ou dans sa pratique, est-ce que vous pensez vraiment que les Togolais en profitent?
Parce que lorsque vous allez au marché acheter des provisions, par exemple le riz, de l'huile, tout ce dont vous avez besoin pour faire le repas, mais quand vous n'avez pas de cuisine, vous n'avez pas les moyens de faire le feu pour cuisiner, je pense que vous aurez de sérieux problèmes. J'avais dit à plusieurs reprises sur ce plateau que depuis quelques années, depuis quelques mois, le gouvernement affiche une volonté de mieux faire les choses. Sauf que ce n'est pas encore ça. Et je voulais juste demander que nous, en tant que citoyens, dans nos interventions de tous les jours, nous puissions rappeler à l'ordre du gouvernement, les encourager à faire ce qui doit être fait, pour que ces choses-là, qui sont des choses de base, qui puissent mettre le citoyen à l'aise, soient faites, pour que nous puissions véritablement les applaudir avec les données.
D'accord. Oui, mais Dorison, c'est vrai que normalement, il doit y avoir une rencontre cet après-midi hein, avec le gouvernement et la presse pour discuter alors de l'AMU. Ben, il semble que la rencontre a été reportée par la suite. Alors, mais quand on prend aujourd'hui la question de l'AMU, est-ce que vous avez aussi l'impression que le citoyen togolais arrive à comprendre même d'ailleurs tout en détail?
Pas du tout, hein. Je rejoins Fiomène, lui, il n'est pas d'accord avec moi, je suis d'accord avec lui. Je le rejoins en parlant de la crise de confiance qui est entre le gouvernement et une partie de la population. Je pense que cette crise de confiance peut, je ne dévie pas de la question, mais cette crise de confiance peut se résoudre à travers le redressement hein, de ceux qui plongent leurs mains dans les assiettes publiques pensant que c'est leur épicerie personnelle. Parce que jusqu'à maintenant, la redevabilité et puis les punitions à l'endroit de ceux qui sont reconnus coupables de certains détournements. On a des moustiquaires qui, je ne sais pas où ils sont passés. On a des engrais, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a la route, le Mouvougan, enfin. Quand on ne punit pas certaines personnes, la population pense que, bon, tout ce que vous faites est mauvais, alors que, véritablement, vous êtes en train de faire quelque chose. Donc, pour le côté de l'AMU, on ne sent pas véritablement. Peut-être si vous tombez malade, c'est ça, hein. C'est quand vous avez un problème de santé véritablement que vous savez comment on dit, hein. C'est quand il arrive le moment de s'asseoir qu'on reconnaît que les fesses ont de la valeur. Donc peut-être qu'il n'y a rien, on est en bonne santé, on ne peut pas sentir véritablement le poids de l'AMU. C'est quand on sera un peu souffrant, comme l'a dit Firmin, concernant ces deux proches qui se sont fait sauver par l'INAM. Donc, je pense que ce gouvernement se doit de véritablement couper ce cordon-là, qui, disons, ce mur-là, casser ce mur de crise de confiance qui entre lui et la population, pour que la population comprenne véritablement tout ce qu'il fait. Mais je pense que ça sera un peu dur si les choses continuent pas à se faire comme elles se font, toujours sans redevabilité, sans que les gens ne donnent des comptes, sans que des gens qui soient à des postes qui ont eu des retraites depuis, continuent toujours pour être là, sans qu'on ne fasse taire les clivages. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire.
D'accord. Alors, Thierry, est-ce que vous avez aussi l'impression que, entre le gouvernement et la population, il y a vraiment cette crise de confiance? Et si vous oui, que vous êtes justement d'accord, vous avez cette impression, qu'est-ce qui peut être à la base alors de cela?
Oui, il y a cette crise-là qui est d'ailleurs bien entretenue. Bon, je ne sais pas pourquoi. Parce que les problèmes togolais sont connus de tous, hein, et les solutions, nous les avons aussi sur les tables, ou du moins sur nos tables. Sauf que personne ne cherche à résoudre véritablement les difficultés ou les problèmes que nous vivons. C'est comme, je me rappelle de Monseigneur Nicodème Bariga, paix à son âme, qui disait qu'il ne comprend pas pourquoi des choses aussi simples les Togolais ne s'entendent pas là-dessus. Je crois que mon cher ami, le conseiller municipal, quand il parle de redevabilité, de la reddition des comptes, c'est bien beau de critiquer le gouvernement. Mais à eux, à leur niveau également, il faudrait que ils puissent être clairs dans tout ce qu'ils sont en train de faire
au niveau de la
base jusqu'à aujourd'hui. Si il n'y avait pas un contrôle rigoureux par la direction du contrôle financier, que je salue au passage, mais ça serait un bordel dans nos communes. Mais les gars, ils sont là, pas pour servir la commune, mais pour se remplir les poches. Les gens sont là, la première des choses
à laquelle ils réfléchissent, c'est comment mettre une société, monter une société écran pour prendre le petit marché qu'il y a au niveau de la commune. C'est ça qui fait d'ailleurs qu'il y a conflit d'intérêts, il y a ces querelles-là qui ne finissent pas, au lieu que les gars s'asseyent pour discuter véritablement du développement de la commune, ils sont là à se tirailler parce que X a pris ce contrat, Y aussi voudrait qu'on puisse le céder celui-ci, ou bien qu'ils s'entendent à se le partager. Mais c'est ça le problème du Togolais. Il n'y a plus de patriotisme, nous n'avons aucune vision pour ce pays. C'est ça le mal du Togolais. Donc, le gouvernement, vous avez de temps à autre, vous voyez le tour médiatique que les membres du gouvernement font sur les médias. C'est parce qu'ils savent que, quelque part, leur message ne passe pas. Et ils ont besoin de faire de la pédagogie pour expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez? Bon, jusqu'à présent, l'AMU, je crois, ça a été acté, ça a commencé depuis le janvier, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans le 9e mois. Hier, pas plus que hier, je lisais quelque chose sur les réseaux sociaux, quelqu'un se plaignait qu'il y a, s'il voulait, il a amené sa fille ou son enfant à l'hôpital pour les soins, on lui dit que ça ne prend pas en compte tel type d'analyse, nanani, nanana, tout ça là. Mais pourquoi on met assez de temps avant d'expliquer véritablement le programme, comment ça va se passer, le contenu, tout ça là. Parce que si nous sommes situés, si jamais moi je débat dans un centre de santé et qu'un agent de santé m'oppose le fait que l'AMU ou l'INAM ne prend pas en compte tel type d'analyse ou tel traitement, je ne vais plus discuter parce que j'ai l'information. Avant d'aller, j'ai l'information.
Et je peux accompagner le système.
Voilà. Mais il n'y a rien. Tout se fait dans un désordre total, dans un... Et puis on se demande qu'est-ce qu'on veut même cacher à la population. Il faut être clair.
D'accord.
Il faut un engagement citoyen et patriotique de nos dirigeants. Il faut qu'au niveau des communes, que les choses se passent bien. Il faut qu'au niveau du gouvernement, que les gens soient clairs sur ce qu'ils sont en train de faire.
Moi, je pense qu'avec la 5e République, beaucoup de choses vont changer.
Mais Firmin,
décidément, Firmin, on aurait cru que c'est toi qui as inventé
ça. Oui, Firmin.
La loi fondamentale de la République, donc ça sort du cadre du pouvoir et opposition. Ça devient un bien public. Donc c'est notre constitution. Et notre devoir, c'est de le fouiller et de permettre à ceux qui ne maîtrisent pas les tests, ces tests fondamentaux, arrivent à le maîtriser. Et quand tu as les tests, tu peux critiquer, tu peux proposer aussi. Ce que je voudrais ressortir, parce que Donatien a parlé de reddition des comptes, vous savez, l'article 2 de la Constitution de la 5e République du Sénat 2024 parle de la démocratie. On dit, l'article 2 dit, son principe, c'est-à-dire le principe de fonctionnement de l'État togolais, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est la démocratie. Comment définit-on la démocratie? La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et donc, cette Constitution incarne la démocratie. Et quand on parle de démocratie, il y a trois choses fondamentales. Il y a la transparence, il y a la reddition des comptes et la culture des résultats. Alors, si on arrive à mettre en pratique ces trois principes, je pense que le gouvernement aurait moins de critiques.
D'accord. En partie, je remercie beaucoup le confrère Thierry. Hein. Il a pointé du doigt beaucoup de trucs. Hein. Et ici, la population n'est pas dupe. Et moi, j'en appelle à cette population-là de savoir faire prochainement le choix. Je ne dirai pas certaines choses ici.
Non, voilà, on a besoin quand même.
La population, c'est elle qui subit les affres de ceux-là qui viennent les racketter. C'est cette population-là qui subit ces affres-là. Donc, sachez faire le choix prochainement. Ne restez plus à la maison comme vous l'avez fait en 2024. Donc, moi, je suis d'accord avec toutes ces analyses. Nous-mêmes, nous le disons. Et ça nous coûte ce que ça doit nous coûter. Mmh. J'espère que tu comprends très bien ce que je dis.
Oh, je ne comprends pas.
Voilà, merci. D'accord. Monsieur Kofi, c'est vrai que hier, à la 17e session de l'ICPC cadre permanent de concertation, il y a la vie chère qui s'est invitée dans la discussion. Et il y a la ministre alors du commerce qui a été invitée à la table alors pour donner des explications sur ce qui se passe en matière d'inflation aujourd'hui sur nos marchés, et puisqu'il y a les populations quand même qui crient hein, de ce qu'il y a cette vie chère qui sévit alors dans le pays. Et des explications ont été données et déjà la classe politique, surtout de l'opposition à la table, a fait aussi des propositions. Donc, on comprendrait tout simplement que ça tient à cœur à nos gouvernants cette question de vie chère, M. Kofi.
Parce que j'avais dit quelques semaines plus tôt que le Togolais n'est pas vraiment intéressé par la politique ou par le politique. Ce qui intéresse vraiment le citoyen togolais, le citoyen lambda, peut-être quelque part à Nero, quelque part à Mango, quelque part à Saint-Cassé, c'est que l'État puisse créer des conditions qui puissent lui permettre de vivre dignement. Et ça passe forcément par l'amélioration du panier de la ménagère. Et je pense que sur ce point-là, ce qui a été fait hier est une bonne chose qui doit vraiment continuer. J'aimerais encourager ceux-là qui ont commencé par faire ce genre de discussion, ce genre de débat, visant à améliorer ou à alléger le poids économique qui est sur la vie de nos concitoyens. Et je pense que ce soit fait, le fait que ce soit fait sans étiquette partisane, que ce soit fait sans différence politique, c'est une très bonne chose que nous devons encourager. Nous souhaitons vivement que cela puisse donner un résultat qui puisse vraiment avoir un effet positif dans nos vies.
D'accord, Thierry. C'est vrai qu'une chose est de discuter alors des problèmes sociaux de notre pays, c'est-à-dire parlant même d'ailleurs de cette question de la vie chère, mais l'autre chose, c'est de changer aussi la donne.
Oui, vous savez, des fois, on n'a pas besoin de discuter avant de résoudre un problème. Quand vous connaissez le problème...
Et les solutions.
Vous pensez que c'est inutile?
Non, je ne dis pas que c'est inutile. Mais je dis, des fois, on n'a pas besoin de discuter avant de résoudre des problèmes. Qui dans ce pays ne sait pas que le bol d'haricots, aujourd'hui, est à 3000? Qui ne sait pas?
Non.
Ah, peut-être.
Non seulement il ne mange pas là, alors là il n'est pas sa faveur. Quand sa femme va au marché, ne revient pas lui dire que, ah écoute chérie, ce que tu m'as donné pour le ravitaillement, sincèrement ça n'a pas suffi.
Eh bien, il est de la minorité, on ne sait jamais. Hein.
Ah, voilà. Donc, qui ne sait pas? Est-ce qu'on a besoin de discuter pour trouver des solutions à ces problèmes-là? Non, je dis non. Parce que le problème est connu de tous. Maintenant, les anciennes mesures prises pour améliorer le panier de la ménagère, est-ce qu'à un moment donné, on s'est assis pour faire le point, pour savoir, ah, écoutez, entre-temps, on a détaxé sur certains produits, est-ce que sur le marché, les prix ont baissé? Est-ce que, les consommateurs, les Togolais que nous sommes, nous avons véritablement bénéficié de cette action gouvernementale-là? C'est des questions qu'il faut se poser. Je vous donne juste un exemple. Je crois que depuis un certain nombre d'années, le gouvernement détaxe sur les véhicules neufs pour permettre au pays de renouveler son parking automobile. Et vous avez vu que dans notre pays, depuis un certain temps, il y a plein de maisons de concession, de nanani nanana, de véhicules et tout ça. Mais la question est de savoir, parce que quand vous payez un véhicule neuf, vous n'avez plus à le dédouaner, vous n'avez plus peut-être à faire l'assurance et au plat, tout, vous n'avez plus rien à faire. Ça veut dire que vous allez, vous achetez, ou vous vous entendez sur les conditions de paiement, on vous livre le véhicule, tout fourni.
D'accord.
Mais cette politique-là, c'est une bonne politique. Mais est-ce qu'on a impliqué tous les acteurs dedans? Parce que les banques qui vont vous payer ces véhicules-là, les banques là, je ne sais pas si elles ont été véritablement impliquées pour que ça puisse profiter à la population. Mais malheureusement, c'est une bonne politique, mais ça ne profite qu'à une minorité.
Or, c'est des pertes pour le gouvernement. Parce qu'on ne prend plus les taxes qu'il fallait sur ces importations-là. Mais pour le gouvernement, c'est une action noble qu'il est en train de mener. C'est une politique noble. Mais seulement que ça ne profite pas à une grande partie de la population. C'est un peu ça. C'est dans ça que nous vivons. Il y a de bonnes décisions qui sont prises. Mais jusqu'au bas de l'échelle, ça ne vient pas là-bas. Donc il faut repenser la chose. Ou du moins impliquer tout le monde pour que chacun puisse faire sa part. Comme l'a dit, malheureusement aujourd'hui, je ne fais que le citer Monseigneur Barilla, que lui il a fait sa part, que chacun soit concerné par la chose. Ce n'est qu'à ce prix-là que nous pouvons construire ou développer notre pays. Sinon, au plus haut, on décide. On pense que la décision ou cette politique-là est bonne, ça va profiter à la population. On met ça en branle, mais au plus bas, les gens ne sentent rien. C'est pour cela qu'il y a cette désignation-là, des fois, où du moins la population ne comprend pas ce qui se fait.
D'accord. Alors, c'est vrai que c'est des acteurs politiques qui ont décidé également de parler des besoins de la population. Et là, ça veut dire qu'on ne tient pas qu'au sujet politique. Oui. Aujourd'hui, on s'intéresse même d'ailleurs à la population, à ce que la population vit chaque jour.
Moi, je les encourage quand même. Hein. Je les encourage... de toujours continuer. Vous savez, comme on le dit, les hommes sont... Les bêtes sont liées par les cornes et les hommes par la parole. Donc, les hommes ne peuvent que discuter. Et ici, Yvan Kotiti et Fifi Amin, on aurait pu quand même amener cette affaire de constitution à être discutée un peu au CPC avant que ça n'aille à l'Assemblée. Ça, c'est juste une parenthèse. Juste pour dire ici que moi, je voudrais bien que le gouvernement revoie cette population-là qui souffre à la base. Comme l'aurait dit quelqu'un, c'est juste une minorité qui s'est accaparée les richesses de la population. Je ne sais pas si la minorité a changé pour devenir une majorité. Ça fait mal de voir que plusieurs personnes, surtout à cette rentrée-là, des parents se sont saignés des quatre veines avant de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Certains priaient encore pour un rallongement de la durée des vacances. Juste pour dire que plusieurs tirent le diable à la queue, mais... Vous allez voir, les gens essaient de masquer cette situation avec leur belle apparence que vous voyez en chemin. On est beaucoup atteint dans le pays de maladies psychologiques. Nous sommes des malades ambulants. Hein. La santé, elle est double. Elle est physique et puis elle est mentale. Plusieurs sont là et sont psychologiquement malades. Ils sont là des fois en train de se parler à eux-mêmes. On ne peut pas développer un pays comme ça avec des gens qui... des gens à peine touche le SMIG. Il faut quand même qu'on ait des mesures. Je ne vais pas parler du fameux Novici qui a été envoyé de façon discriminatoire. Hein. Oui, parce que nous sommes, il n'y a pas un Togolais plus Togolais que l'autre, mais de façon discriminatoire, juste pour dire encore que la population togolaise est.
Mais là aussi, pour, quand tu parles de Novici, c'est sur des critères
d'identité. Il faut quand même que, du moins, parmi les Togolais, bien sûr, il y a des ceux qui sont défavorisés.
Alors, oui, Firmin.
En fait, maintenant, je voudrais dire deux choses. La première des choses, c'est que le gouvernement n'a pas besoin qu'on lui rappelle que les Togolais souffrent. Le gouvernement n'a pas besoin qu'on lui dise que le bol de maïs est à 1000 francs, peut-être, et le bol de haricots est à 3000, peut-être. Le gouvernement n'a pas besoin de ça parce que le gouvernement il a toutes les informations en ce qui concerne les importations.
Mais ici, le gouvernement a toutes les informations. Comment se fait-il que les choses ne changent pas?
Ouais, et les exportations. Donc le gouvernement n'a pas besoin. Ça doit rentrer dans la vision du gouvernement. Pour dire, moi je voudrais que mon peuple soit épanoui. Je voudrais que les produits de première nécessité aient des prix baissés, comme on vient de le voir au Sénégal, mais eux aussi n'ont pas tout réussi parce que la baisse est trop minime. Quand ils ont vu la canette, ce qu'il y a dans la caisse, donc ils ont baissé de façon très minime.
Mais c'est une baisse.
C'est une baisse. Mais la population aujourd'hui est en train de retirer parce que ce n'est pas ce qu'ils avaient promis, au fait. Parce que c'est la réalité du pouvoir aussi. Mais ici, le gouvernement n'a pas besoin de ça. Mais n'oublions pas, nous sommes en politique. Nous n'oublions jamais. Vous n'avez pas d'acteur politique. Nous venons de loin de tout faire de la politique. Quand le gouvernement sait que quand il va baisser, peut-être sur le plan politique, ça ne va pas trop l'avantager, il ne le fera pas. Ça, c'est la politique. Alors, moi, quand j'apprends qu'au CPC, on fait appel à un ministre de venir faire la com, de présenter une communication, présenter le tableau de la situation, moi, je voudrais dire, mais je ne voudrais pas parler de manipulation politique, mais vous qui venez avec vos opposants, qui venez avec votre projet, et quand on vous présente des choses, on vous présente ce tableau, c'est comme vous êtes séduit et vous n'avez plus de force. Vous êtes affaibli.
Il y a des propositions quand même qui ont été faites.
Hein. Oui, mais ça veut dire vous êtes affaibli. Alors qu'est-ce que je vous essaie de dire? C'est la deuxième chose que je voudrais dire. En réalité, l'opposition devrait avoir assez d'éléments pour pouvoir mettre la pression sur le gouvernement. Si vous n'avez pas assez d'éléments, si vous n'avez pas de prix à l'international, si vous n'avez pas des chiffres au niveau du pays, au niveau de la statistique, pour voir, c'est comme ça, les fluctuations et autres, quand on va vous présenter un tableau, vous allez avaler. Et vous allez croire que c'est la réalité qu'on vous présente. Alors que ça peut être la vérité, mais c'est ce que le gouvernement voudrait que vous ayez comme information. Ça ne veut pas vous dire. Alors la vraie chose, c'est que les policiers travaillent pour avoir des vrais chiffres. Tous les chiffres, c'est ce qui va constituer leur document et c'est ce qui va les amener à devenir une alternative crédible. On devient une alternative crédible quand on arrive à présenter à l'autre que ce que vous faites là, c'est vous n'êtes pas sur la bonne voie. Moi, je suis à votre place. Voilà les chiffres réels. Et c'est comme ça que je me comporterai.
D'accord.
Moi, dans cette situation, quand on va au CPC, on va venir à ministre. Moi, je pense que le pays est quitte.
D'accord. Monsieur Kofi,
parce que j'aimerais revenir sur ce que vient de dire l'aîné Thierry. C'est bien ça?
Oui, Thierry, oui.
Écoutez, lorsque vous avez une épouse qui a décollé pendant plusieurs années, au point où vous ayez envie de la répudier, et que du jour au lendemain, elle vient vous dire, qu'elle n'ait pas parlé, mais qu'elle montre dans son comportement qu'elle a envie de changer et de garder le mariage, vous avez la responsabilité de faire des devoirs d'encouragement, de l'encourager. Parce que si vous ne faites pas ça, vous êtes en train de lui rendre la tâche plus difficile. C'est comme si, au départ, vous avez déjà décidé de la faire partir. Vous ne voudrez pas faire des efforts de changement. Nous avons tout à l'heure, ou bien mes amis avaient tout à l'heure parlé du fait qu'il y a une crise de confiance entre l'État, ou entre le gouvernement et la population. Alors, en parlant, l'ami a parlé du fait qu'il y a eu cette initiative-là de réduction, de suppression des taxes automobiles. Alors, et au même moment, il y a plus de gouvernement. Au même moment, il y a plus de gouvernement de ne pas faire les efforts suffisant pour impliquer tout le monde. Mais comment est-ce qu'on peut impliquer tout le monde si on ne discute pas? Puisqu'il avait déjà dit qu'on n'a pas besoin de discuter avec qui que ce soit pour savoir ce qu'il faut faire.
Non, je n'ai dit que cette personne n'a pas besoin de discuter avant d'apporter des solutions à des problèmes.
D'accord.
Les solutions sur la table.
D'accord.
Je voudrais qu'on fasse.
Et il suffit simplement d'avoir une volonté pour le faire. Par exemple, actuellement, le prix du baril est en baisse sur le marché.
Ouais.
Mais le prix des produits pétroliers pratiqués à la pompe, c'est le même prix depuis des mois et des mois. Est-ce qu'on a besoin de discuter avec le gouvernement avant qu'on ne revoie à la baisse ces prix-là?
Il faut qu'on soit sincère envers nous-mêmes. Lorsqu'on est un peu distant de ce qui se fait, on a tendance à avoir un point de vue un peu différent. Finalement, je parlais tout à l'heure de la réalité du pouvoir. Nous pensons qu'en étant hors du pouvoir, en étant à distance du pouvoir, les choses sont facilement faisables.
Mais, cher ami, les réalités là sont les mêmes partout. Ailleurs, les prix sont revus à la baisse.
Même
les réalités de gestion, c'est vrai, il y a des contingences. Mais les réalités sont pratiquement les mêmes.
Oui, je sens être un peu d'accord avec ce que vous
dites. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, voilà.
Oui, que c'est ce que je dis. Quand vous ne voulez pas toutes ces informations, et vous, lors de vos discussions, vous ne sortez pas ces chiffres pour dire à ceux qui vous gouvernent, voici vous gouvernez.
Exactement.
Mais regardez ce qui se pratique au Sénégal. Regardez ce qui se passe pour ceux qui dansent au Faso. Regardez ce qui se passe ailleurs. Vous êtes dans l'obligation de nous faire baisser ce prix-là.
Mm-hmm.
Si vous ne faites pas ça, là, ils savent que vous n'avez pas les informations, vous n'avez pas les informations, et ils vont vous présenter la communication qui leur sied.
Ça, c'est une communication gouvernementale.
Je suis même assez désolé de comment nous gérons les choses dans ce pays, parce que je vois que nous ne faisons pas assez d'études sociologiques. Je ne sais pas à quoi nous servent les étudiants qui sortent de la sociologie et même du département de la géographie. Parce que quand vous voyez dans plusieurs pays, il y a des sondages qui sortent pratiquement chaque mois, ou chaque trimestre, chaque semestre, pour qu'on sache véritablement comment la population... Maintenant, on peut faire des sondages par commune. Ça, je donne ces idées-là à ceux qui veulent les pratiquer. Donc, on peut véritablement savoir ce que la population en pense. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle des gens ont répudié les gens du RGPH 105, là. Quand on venait vous poser la question, est-ce que vous utilisez du gaz butane, vous avez combien de maris, combien de femmes, les gens ne savaient pas. On voulait véritablement connaître des choses sur les populations. Si on le faisait bien avant, les gens sauraient que mais ce n'est rien, même des fois, c'est en ligne. Si on veut véritablement être un pays développé, il faut qu'on commence ces études sociologiques-là, qu'on sente... Et même dans les vacances, comment les parents vivent, et durant le moment de fête, comment les jeunes... si on demande ici, combien de jeunes on a au Togo, je ne suis pas sûr que quelqu'un pourra me donner un chiffre. Combien de jeunes, de tel âge à tel âge, je ne suis pas sûr. Ça, je le dis, je ne suis pas sûr. Si les gens ont ces chiffres-là, qui me les sortent. On manque d'études sociologiques. C'est ça qui c'est.
On manque de données statistiques.
Ces statistiques-là, je ne suis pas sûr qu'on me prouve le contraire. Je ne suis pas sûr qu'on
de sans ces statistiques, il est difficile de déterminer de notre
pays. Oui, il faut sans ces chiffres, sans ces données.
Il faut qu'on ait des structures. Ça, je suis d'accord avec
toi. Mais il y a des structures aujourd'hui qui sont là.
C'est ce qui fait qu'en réalité, c'est pas seulement ce qui fait qu'en réalité, en Afrique, les opposants ont du mal à proposer des projets ambitieux.
Pas forcément les opposants.
Regardez, parce que vous voyez, je dis, là, c'est une donnée. Mais arrêtez-vous, tout vous goûtez. Parce qu'il faut qu'il y ait des structures publiques. Que par exemple, si moi j'ai besoin d'avoir des chiffres, que j'aille directement. Parce que je suis un citoyen, si je suis un acteur politique, je suis un journaliste, je suis un acteur public, si j'ai besoin de donner, c'est un nombre de données par rapport aux jeunes. Combien de jeunes vont à l'école aujourd'hui, combien de filles sont à l'école privée. Il faut que cette donnée-là existe. Parce que c'est avec cette donnée-là qu'on fait des politiques, qu'on établit des politiques.
Ok, oui, M. Kofi.
Alors, quand Donatien vient de dire, quand il disait tout à l'heure que, bon, voilà,
ça manque d'études sociologiques.
Voilà. Quand il dit, par exemple, qu'il ne sait pas à quoi nous servent les étudiants en sociologie, je ne sais pas à qui il s'adresse. Si c'est aux étudiants, je suis désolé, parce que les sondages, les études sociologiques, c'est une question de moyens. Et aujourd'hui, la seule personne qui a les moyens véritables pour faire ce genre de travail, c'est l'État.
C'est le stage plan, hein.
Donc, c'est à l'État que vous adressez.
Ah non, mais vous pensez que je m'adresse à l'institut personnel aux étudiants? Mais il faut quand même qu'on absorbe ces étudiants. Voilà ce que je veux dire. J'essaie de leur donner du boulot en même temps. Hein. Il faut que plusieurs finissent et ils deviennent des enseignants de français, des enseignants dans l'établissement, ici et là. Certains même oublient ce qu'ils ont étudié à l'université concernant la sociologie. Il faut vraiment qu'on absorbe les talents que nous avons.
Quand on parle de données de statistiques là, moi je souris un peu parce que il y en a dans notre pays. Actuellement même, il y a, je crois, une enquête nationale de satisfaction du secteur privé pour recueillir, comment on appelle, leur avis par rapport à l'amélioration du climat des affaires. Il y a les données, il y a les statistiques. Maintenant, quand on a ces informations, comment on les traite?
Qu'est-ce que nous faisons de ces
informations? Voilà. Donc c'est là où il y a le débat. Il y a le débat. De temps à autre, on interroge la population sur des questions précises. Et il y a toutes ces informations-là. Il y a des données, il y a des statistiques. La fois dernière, le recensement général qu'on a fait par rapport à la population et à l'habitat, je crois que les questionnaires sont allés au-delà de l'habitat et de la population. Oui, tout ça là,
je ne suis pas d'accord.
Oui, parce que mais le gouvernement avait besoin de toutes ces informations là. C'est pour cela quand l'occasion s'est prêtée, on est peut-être allé au-delà des premiers indicateurs qui sont l'habitat et peut-être la population. Maintenant, quand on a ces informations, quand on a ces données là, qu'est-ce qu'on en fait? Le problème du Togolais, moi je le dis, c'est le manque de patriotisme.
initiative. Les gens, on vous met à la tête d'une institution, au lieu de travailler pour le pays, de travailler pour l'institution, les gens sont là à se servir et à faire profiter des biens de l'État à leur famille.
Mmh, d'accord. Mais c'est quoi? Nous allons quitter le sujet. Parlons maintenant politique, après avoir parlé même d'ailleurs des faits sociaux ou du moins de la vie sociale alors de notre pays. Nous allons parler politique. On sait que, de notre oui. Normalement, le Front Touche pas à ma Constitution devait être en manifestation ce matin à Sokodé. Et la manifestation, en fait, c'était pour également une manifestation de solidarité à l'égard surtout alors des détenus politiques. Mais il semble que depuis hier, cette manifestation a été interdite. Et moi, dans le courrier d'interdiction même d'ailleurs de cette manifestation, il y a une phrase quand même qui m'a marqué. Et je vous lis cela. On dit par ailleurs, l'activité projetée par le Front Touche pas à ma Constitution n'est pas alors de nature à préserver la tranquillité publique. Quand on parle alors de la prière et également d'une manifestation de solidarité, en quoi cela ne peut pas participer à la préservation de la tranquillité?
Ah ben là, je crois que c'est le ministre seul, celui qui a signé cette lettre, qui pourra expliquer en quoi cela pourrait déranger la tranquillité. Je ne sais pas si la prière se fera en plein milieu de la route et qui va empêcher les gens de vaquer à leurs occupations, je ne sais pas. Et ce n'est même pas motivé, je ne sais pas, la lettre a été tellement très succincte, il n'y a pas eu de motivation.
On a parlé aussi de certaines organisations, certaines associations qui font partie alors du Front.
Il y a Bindier,
qui ne sont pas
citoyens.
Et il a dit qu'ils ne sont pas légalement établis alors dans le pays.
Moi, je pense que cela contribue toujours restreindre cette liberté-là dont on parle, qu'il y a la loi sur la liberté, je crois que c'est la loi de 2019. On peut quand même parer à toutes ces difficultés en laissant ces personnes et en les encadrant. C'est nous-mêmes, des fois, nous créons des foyers de tension à travers certaines décisions qui pourront nous être préjudiciables après. Mais bon, nous ne sommes pas le ministre. C'est lui qui a aussi les services de renseignement qui sont à côté, qui lui ont filé peut-être des informations que nous n'avons pas. Et c'est sur ça qu'il s'est basé pour refuser cette manifestation. Et tout ça, ça nous fait encore toujours reculer en termes de pays de démocratie avec la liberté d'expression. Il est le seul à savoir les raisons pour lesquelles il a refusé cela. Et le moment peut-être viendra, vous allez peut-être lui arracher quelques mots à une occasion.
D'accord, Firmin. Est-ce qu'avec ces interdictions de manifestations publiques, et finalement, l'espace public n'est pas restreint aujourd'hui?
Non, l'espace public est restreint de par le monde, surtout avec le terrorisme. Tous les gouvernements du monde peuvent se prévaloir des actes
terroristes.
Ils peuvent aussi s'en prévaloir comme à Libye aussi. Oui. C'est-à-dire pour dire que si le gouvernement politique... Mais n'oublions pas, c'est de la politique aussi. Le gouvernement, quand il trouve que cela va le déranger un peu politiquement, il va dire, oui, on a des informations. C'est passé dans tous les pays. Vous imaginez ça, si c'est politique. Peut-être le gouvernement a des informations sur le plan politique. Il ne va pas les dévoiler. Et aussi, il y a des choses véritablement réelles. Quand le gouvernement sait qu'il y a des informations sur ce type de nuire à la tranquillité publique, le gouvernement dit non. Il ne motive pas. Il dit non, nous avons un certain nombre d'informations, mais vous ne pouvez pas tenir. Mais avec le terrorisme aujourd'hui, l'espace public se réduit. D'après tous les pays, que ce soit en France, partout. C'est que ça n'est pas seulement le Togo. Mais. Et ici, j'ai l'impression que le gouvernement a un certain nombre d'éléments. Quand il dit qu'il y a certaines organisations qui ne sont pas constituées légalement, là déjà, c'est un lobby qui peut amener à interdire. Parce que quand vous n'êtes pas légalement constitué, on peut vous interdire de manifester. Ça, le gouvernement a un certain nombre d'éléments. Maintenant, la deuxième chose, c'est que, touchement à ma constitution, quand on parle encore de la constitution, moi, je me dis qu'en réalité, on fait de la paresse politique. C'est bien. La démocratie, c'est de laisser l'autre s'exprimer. c'est bien, ils s'expriment démocratiquement. Mais dire aujourd'hui, parler encore de la constitution pour qu'on aille à un retrait systématique du texte, moi, je pense que c'est de l'appareil politique. Il faut chercher, il y a des choses plus importantes que
non,
ça.
Non, moi, je ne suis pas d'accord.
Hein. Il y a des choses.
Donald Trump dit jusqu'à maintenant que l'élection était volée.
Oui, on peut le dire,
mais il va participer encore à la
Moi, je peux critiquer. C'est bien de s'exprimer. C'est bien, par exemple, au Mali, ceux qui ont voté la constitution, c'est 35%. Tout de participation, c'est 35%. Mais il n'y a aucune constitution de parlement qui ait été adoptée à l'unanimité. Il y a toujours des voix contestataires. Mais ici, pour moi, je pense que ce qui se fait, c'est de la paresse politique. Parce qu'il y a assez de défis. Parce que, vraiment, c'est devenu la loi de la loi fondamentale de la République. Vous demandez à ce chef d'État de retirer, mais c'est ce n'est pas un simple loi. C'est pas difficile. Moi, je me dis que c'est de la paresse politique. Il y a d'autres choses plus importantes. Il y a la vie chère. Faites des propositions par rapport à la vie chère. Faites des propositions par rapport au terrorisme. Faites des propositions par rapport au financement. Faites des propositions par rapport au transport.
Vous pensez que nous n'avons pas une opposition de propositions?
Non, on n'a pas une opposition de
propositions. Non,
c'est
vrai.
Mais l'opposition togolaise n'est pas une alternative crédible.
Il faut savoir que l'opposition plurielle.
Ah, donc vous êtes.
L'opposition plurielle.
Ok, d'accord. Il y a une partie de l'opposition.
Monsieur Kofi, déjà par rapport à cette manifestation qui a été interdite, alors finalement on pourra dire aussi tel que je posais la question, affirmer tout de suite que mais, l'espace civique est de plus en plus réduit. Hein?
Pascal, nous savons tous que globalement il y a des contraintes sécuritaires qui donnent un challenge sérieux à nos gouvernements de par le monde. Mais vous savez, c'est un peu malhonnête de donner des coups à une personne et de refuser à la personne de pleurer. J'ai deux messages. Le premier, à l'endroit du gouvernement. Il faudrait que le gouvernement, enfin, se décide à ouvrir un peu l'espace de liberté, à permettre à ceux-là qui veulent continuer toujours pas pleurer, de pleurer. Si le gouvernement n'a rien à craindre, n'a rien à se reprocher, mais laissez ceux-là qui veulent pleurer, continuez pas à pleurer après que le lait ait été déjà versé sur le sol. Laissez-les pleurer, c'est tout simplement. Il y a des moyens, il y a des manœuvres d'encadrement de ces manifestations-là. Que le gouvernement sorte, accompagne ces gens-là et qu'on n'en parle plus. Laissez-les pleurer. Secondo, je veux parler à l'opposition une fois encore. Écoutez, lorsqu'on est opposant, la finalité c'est quoi? C'est l'obtention du pouvoir politique.
Ah, c'est dit,
pour pouvoir mettre en place les idées que l'on avait et pour lesquelles on criait. Alors si aujourd'hui l'opposition togolaise est encore dans cette logique de contestation d'une constitution déjà promulguée, je suis désolé. Il faut que cette position s'asseye pour une fois.
Vous pensez que ça n'aura pas de résultat?
Oui, moi je pense que c'est déjà perdu. C'est perdu. Il faut qu'elle prenne conscience de cela. C'est perdu. Il faut qu'elle s'asseye et réfléchisse à comment faire pour avoir cette position de force-là dans ce nouveau schéma. Il faut que l'opposition togolaise puisse se donner les moyens de ravir le pouvoir politique à ceux-là qui l'ont détenu.
Se donner les moyens, comment?
C'est aussi une autre question.
Vous
savez, des fois, je le dis encore, on peut éviter certaines situations. La manifestation est organisée pourquoi? C'est toujours pour attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'il y a des détenus politiques,
tout à fait.
Des gens qui ont passé ou qui passent des mois et des mois à la justice, à la prison, sans connaître leur jugement. Mais qu'est-ce que ça coûte? Vous avez parlé tout à l'heure du cas permanent de concertation. Mais ces questions ont été débattues au sein de ce cadre-là. Mais qu'est-ce que ça coûte depuis là qu'on ne peut pas organiser rapidement un procès pour ces personnes-là? Et surtout qu'il y a des décès dans les rangs de ces prisonniers-là. Qu'est-ce que ça coûte depuis là qu'on ne peut pas organiser un procès pour ces personnes-là, pour que les uns et les autres soient situés et que peut-être dans le cadre de, comment on appelle ça, des décisions du chef de l'État où on libère
le gaz présidentiel,
pour qu'on puisse trouver peut-être une formule pour larguer et élargir ces personnes-là. Donc, on peut éviter des choses. Maintenant, quand vous disiez que est-ce que la prière est une menace, n'oubliez pas que sous d'autres cieux, les gens sont partis des prières de vendredi et par après, ils ont mis à sac tout leur pays. Donc, tout est possible. Et n'oubliez pas aussi que ce codé est assis sur des braises. Je vous fais cas du 17 août 2019 plutôt. Vous avez vu ce qui s'est passé dans cette ville-là. Donc, le ministre, il apprécie. Mais c'est quand on restreint trop qu'il y a problème. Il y a problème. Donc, c'est des trucs qu'on peut éviter, tout ça là, et les gens n'auront plus de matière à s'opposer. On peut trouver rapidement, organiser le procès de ces prisonniers-là, que chacun soit situé, et s'il y a une grâce qu'on peut leur accorder, qu'on le fasse rapidement, parce que nous avons besoin de tout le monde pour construire ce pays. Donc, voilà. C'est très important.
D'accord, Fernand. Non, surtout par rapport aux détenus. Et surtout aussi par rapport à ceux-là qui sont à l'extérieur, à l'étranger, qui sont les Togolais. Moi, je ne veux pas rentrer dans le fond, je ne veux pas savoir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont eu à commettre comme délit ou crime. Mais pourtant, c'est que le chef de l'État, lui, premier magistrat de la République, qui leur donne à ce qu'on libère, moins dangereux.
Bon, on vous dira qu'il y a séparation du pouvoir. On ne peut pas les libérer sans que le procès ne soit
organisé. Le président de la République, il est le magistrat suprême de la République. Il peut dire, monsieur le juge, trouver une situation atténuante. Quand on parle de séparation du pouvoir, la séparation du pouvoir, elle n'existe pas principe. Mais dans la pratique, elle n'existe pas. Le président du Nord, attendez, le ministre de la Justice, c'est lui le patron de la justice, en réalité. Or, il est de l'exécutif. Donc, ce que moi je dis, que le président a pu se prononcer sur ces sujets-là. Qu'on libère. Pourquoi on ne parle plus à l'étranger ou à l'extérieur ou sur les chaînes internationales, les détenus politiques? Ça donne une certaine bonne image à notre cher pays, que le président se prononce sur le sujet. Et aussi tous les Togolais qui sont à l'extérieur, qui critiquent le régime et qui ont envie de rentrer, que le régime trouve des situations atténuantes. Pour qu'ils puissent rentrer aussi.
D'accord. Ok, nous allons, il est midi, passé de 2 minutes. Nous allons maintenant donner la parole à nos compatriotes aussi qui sont à l'écoute et qui désirent rentrer en ligne et participer à ce débat avec nous. Ils peuvent nous appeler sur le 90 86 35 35 ou le 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5 Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35. Premier auditeur que nous avons. Allô?
Oui. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est Pélé.
Oui, c'est Pélé.
Comment vous allez?
Très bien.
D'accord, allez-y.
Bon, je salue le plateau. Je voudrais poser une question à M. Firmin. Lorsqu'il dit souvent que l'opposition fait la paresse politique, je voudrais qu'il m'explique bien ce qu'on appelle la paresse politique. Si nous sommes dans un pays démocratique, il y a des options qui sont au pouvoir, ou bien dans un pays, soit pas les yeux, soit pas le mythe, ou bien les armes. On sait que c'est comme ça. Mais le président togolais choisit l'option des yeux. Alors, pour aller avec les textes qui sont là, en vigueur, quand on parle de ne suis pas ma constitution, ne parle légalement, bien, et la BMK, la BMP, les comptes 1, les comptes 2, craquer, tout ça là. Quand ils étaient dans la rue, vous voyez tout ça là. C'est parce que le RPT, lui, n'a pas de bonne foi. Il a de mauvaise foi. Si nous prenions actuellement le régime qui est en place, qui a 108 députés, mais qui a peur de cette position là encore, vous ne voyez pas qu'il y a problème. Que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, il faut qu'on aille à une assise nationale. Le président, il ne sait pas si la peur du peuple togolais. C'est ce que c'est ça dit. On ne sait pas, toutes les émissions sont dans ses mains. la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, la Cour suprême, l'Assemblée, tout. Il a qui, affamé. Il a tout. Il n'y a rien qui est la troupe. Mais le peuple affamé, il y a tellement de carrefour. C'est tout ce qu'on a dit. Si nous avons, si nous sommes actuellement jusqu'à ce niveau, on a, tout le monde sait comment le président ou bien le ministre à l'époque au fond de l'Assemblée, l'année de 2005, il est arrivé au pouvoir. Mais le peuple l'a pardonné. Pourquoi lui ne peut pas aller à une amnistie générale? Merci.
Merci beaucoup, Pelé, pour votre intervention. Oui. 90 86 35 35. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Gado.
Ah, comment allez-vous?
Ça va, et chez vous?
Oh, ça va.
Allez-y.
Je vais demander à mon ami Firmin. Il sait pourquoi on a créé ces cases-là pour nous endormir. C'est parce qu'il y a des élections mal préparées. C'est vrai, Firmin. Il faut le savoir, sinon pourquoi elle a tous ces cadres-là? On n'a même pas besoin. Mais c'est à la tête un opposant de la tenue. Vous allez voir. Mais c'est ça le problème. On a créé des cadres pour nous endormir. C'est ça, normal. Le pays est sur place, ça ne bouge pas. Mais dites-moi, quelle élection qui est dans ce pays bien préparé? Personne n'a parlé. Au Togo, jamais. Merci et bonjour.
Merci, M. Gado, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô, bonjour, Canal FM.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, ça va. C'est Apollinaire depuis Nukafu.
Apollinaire depuis Nukafu. Apollinaire, allez-y.
Monsieur Chimé, bonjour. Félicitations à vous. Hein. J'aimerais savoir, il faut que je pose cette question. C'est dans 5e République, quand on vote, on ne va plus sanctionner les journaux comme indépendants. C'est le charret fermé tempête express. J'aimerais savoir encore. C'est dans 5e République, quand on va diminuer les péages. Répondez-moi ça, merci.
D'accord, merci Pauline pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour madame.
Bonjour Monsieur. Mes frères.
J'espère que vous allez bien.
Bon, on est là quoi. Mmh. Moi je vous entends avec une oreille et j'attends que les auditeurs posent des questions pour me mettre dedans, pour me mêler dedans. Parce que je suis fatigué de tout, quoi. Comme vous, hein, vous-même vous êtes fatigué là-bas. Je voulais vous demander à tous, mais tout le reste, bon maintenant, qu'est-ce que vous voulez à vous fatiguer tous les jours, à débattre dans les herbiages et tout, qu'est-ce que vous voulez? Quand on est dans le parti unique à vie, à Odo, on est dans une république, et dites-moi là-bas, est-ce que le mandat de ce régime est le limite? C'est pas le limite. Et puis vous dites que ça commence à force de, je sais pas, le pouvoir, c'est un truc de force, ça veut dire celui qui est. Non, c'est pas celui qui est malin, qui est rusé. On a des lois de la République qui est établie sur un mandat de 5 ans. Celui qui enfreint à ça, là, il fait de la retrahison, c'est tout. Ça cible de tout ce qu'on veut. C'est tout. Et puis moi, je vais vous demander d'appeler le président. Vous venez nous expliquer pourquoi il refuse l'alternance et la démocratie. Appelez-le la semaine prochaine. Voilà.
D'accord. Merci. Merci, madame ici, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va.
C'est monsieur Malte. Oui, allez-y.
Salut le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
S'il vous plaît, à chaque fois, monsieur Fimet a l'habitude de comparer la démocratie togolaise à celle de l'Occident. Mais c'est pas rien, c'est pas la même chose. Au Togo ici, aucune loi n'est respectée. Les lapins, je me suis variable. Comment on peut me dire sur votre antenne que le président manque de propositions au gouvernement? Ce n'est pas le président Grimard qui propose au président Talon avant qu'il développe le donné. Il dit désolé. La seule chose au Togo, les gouvernants, ils n'ont pas la vision. La vision, même en Israël, en pleine guerre, ça manifeste. Est-ce que la condition togolaise nous autorise à manifester au Togo? Non ou pas? C'est ça la question, quoi. Ce n'est pas le problème de la poser au gouvernement de faire telle chose. Mais si, c'est important de parler là. C'est qu'on a fini la médiocrité, quoi.
Merci, M. Mauto, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est à travers ces deux numéros que vous pouvez réagir. Allô? Allô, bonjour.
Hey, bonjour.
Oui, Basile.
Bonjour, Pascal.
Oui, Basile, comment vous allez?
Voilà, je vais bien.
D'accord.
Ma radio est vraiment élevée.
Voilà, je pense que c'est. Je pense que c'est
ma vie de vos rythmes. Bon, moi, je vais vous dire quelque chose. et à qui m'est seul que je vais parler aujourd'hui. Pour lui, ceux qui sont là, là-bas, ce papa, ils n'ont pas le pouvoir de faire le bien du Togolais. C'est l'opposition qui doit défaire avant que le Togolais ne soit bien. C'est la seule question. J'ai beaucoup de choses. Je ne vais pas venir là-dessus. Pour lui, c'est l'opposition. Ça t'a foutu par ça, ça t'a parlé de politique, tout ça là, que ceux qui sont là, ça t'a fait ça, de plus tard, ce que le monde va bien, ils ne savent pas me répondre. C'est tout.
D'accord. Oui. Merci, Basile. Merci pour votre intervention. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez?
Ça va, à la Togolaise.
Votre nom,
c'est Roberto Torres.
Roberto.
Roberto Torres.
Roberto Torres.
Oui.
Et c'est Togolais?
Oui, c'est Togolais. Il a un peu plus de l'Amérique.
Ah, d'accord. Ok. Vous nous appelez de quel quartier?
Je m'appelle le Vida, Vida.
D'accord, allez-y.
J'aimerais poser une question ou deux questions à M. Firmin. Chaque fois que je l'attends sur les médias, il fait les tours de rang sur les médias. Je vais lui poser la question, c'est pas que je vais l'insulter. Est-ce qu'il connaît Ousmane Bernabé, il est de cette famille-là? Un. Deuxième chose, dans ce pays, vous voulez faire la démocratie. Nous sommes personnes qui t'attendent de tous les gens du pays. En plus, le CPC dont il parlait, si le chef n'est pas la bonne volonté d'appeler toute la case de l'opposition de l'air, je vais nous allons nous asseoir. Et si vous jouez ce s'accord dans le cadre du VASA, du VASA, c'est pour c'est qu'il n'a pas la bonne volonté. Soyons directs et exigeants la vérité pour que nous devons aussi évoluer dans mes frères. Merci beaucoup.
Merci, M. Roberto Torres, d'être passé dans cette émission. Allô?
Oui.
Bonjour.
Oui, c'est Télé qui revient.
Oui, Télé.
Donc, moi, souvent, je voudrais toujours dire que le Togo et le Bénin sont des pays frères. En parlant des deux pays-là, où nous prenons deuxième mandat de Pakistan après tant d'apports ce qu'il fait. 5 ans de pouvoir, alors qu'il est né à la présidence de son papa. Il est né à la présidence. Il est tel ministre. Vous voyez, il a il a toutes les forces de gouverner. Il sera le premier président du monde. Si vous voulez être sérieux avec le peuple togolais. Mais quand vous ne pouvez pas le faire, donnez la main à ton pays. Donnez la main, être courageux. Pour être courageux, pour dire qu'il faut aller à une assise nationale. Peut-être pour corriger la conférence nationale. C'est tout. Parce que le pays va mal. Et vous êtes dans une avenue. Notre pays va mal. Vous voyez les choses comme ça, nous sommes à la veille de cette étape.
Merci beaucoup, Pélé. Pélé, merci. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô? Allô, bonjour. Allô? 90, 86, 35, 35. Allô, bonjour.
Bonjour, le plateau.
Comment vous allez?
Moi, c'est Monsieur Cordio.
Monsieur Cordio, vous appelez d'où?
Je ne sais pas, parce que je n'ai pas de retour, mais je vais aller. D'abord, l'intellectuel manque, je ne sais pas quoi, il faut intellectuel dont monsieur le journaliste parlait là. Ça nous manque tous, ça nous manque tous. Donc, ça fait que même ceux qui nous dirigent aussi, ce manque-là aussi, les jeunes, et aussi nous qui sommes à la maison, et cette chose-là, nous, ce manque-là, c'est des fois que nous n'arrivons pas à faire. Ça aussi nous gêne. Et aussi, je vais dire à vous aussi qui êtes à l'antenne. Donc, il va falloir que vous essayez de dire les choses qui soient un peu vraies, quoi. Parce que je vois que, en écoutant certains d'entre vous, ça fait mal.
Chacun fait l'analyse à sa manière, M. Kodjo. Merci d'avoir appelé 90 86 35 35 91 36 63 115. Nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô?
Allô, Canal FM, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je me porte bien, c'est Waris.
Oui, Waris, depuis Azan.
Effectivement, je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Concernant toujours la libération des prisonniers politiques, je suis dedans. Et bon, et je pense qu'aujourd'hui, le peuple se méfie de l'opposition. Et quand vous prenez le 19 août 2017, quand une partie de l'opposition, certains seulement, qui ont appelé la population de défendre dans la, dans la rue. Aujourd'hui, ils ont abandonné cette population. Hein? Ils ont abandonné, c'était en prison. C'est pourquoi je vais profiter de cette émission pour dire bravo au Front citoyen qui, quand même, quoi qu'on dise, a assisté la famille de ces prisonniers
politiques. Ça ne fout tous pas dans la Constitution.
Et on veut trouver la voie de l'école. Donc aujourd'hui, les gens ont abandonné. Mais c'est dans ce pays que les gens ont demandé, donc, le départ du président, voilà, aujourd'hui, il n'est pas rien. Et je viens parler de M. Jean-Pierre Fabre, qui ne dit rien de ce qui se passe aujourd'hui, les prisonniers politiques. Les gens sont aujourd'hui à l'Assemblée, ils ne parlent plus de ceux qui sont abandonnés en prison. Vraiment,
Waris, la NCA a toujours dénoncé cette question alors
que. Mais il n'a pas, il n'a pas fait.
Non, mais tout récemment, je me souviens.
À la famille. C'est tout ce que nous voulons.
D'accord, ok. Merci beaucoup, Waris. C'est votre manière de. Et pensez aussi à l'actualité, ou du moins de donner votre avis. Merci à vous tous qui nous avez appelés, puisque nous sommes maintenant à la fin pratiquement de cette émission, mais nous allons revenir en plateau pour faire un dernier tour de table avant de clôturer l'émission. Alors, M. Kofi, vous avez écouté aussi les uns les autres se prononcer sur l'actualité. C'est vrai que nous avons parlé de la vie chère, nous avons parlé de beaucoup de choses, de la politique, et surtout la chair, bien sûr. Mais beaucoup de gens sont revenus plus sur la politique. Ouais. Et c'est de bons gars quand même, M. Kofi.
Pascal, je vais aller tout de suite en défense de mon frère. Je vais aller en défense de mon frère Firmin Tekou Agbo, que les gens ont attaqué beaucoup aujourd'hui. Écoutez, il faut que les Togolais comprennent ceci. Nous n'avons absolument rien contre l'opposition togolaise. Et nous ne sommes pas non plus du côté du pouvoir, parce que nous savons tous que le pouvoir a commis des erreurs sur les décennies qui ont été au pouvoir, des erreurs qui nous affectent aujourd'hui. De la même manière, il faut que l'on accepte que l'opposition a commis des erreurs qui nous ont coûté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce que nous disons à l'opposition, c'est de changer de stratégie pour pouvoir enfin avoir accès au pouvoir politique et nous montrer de quoi ils sont capables, c'est tout.
D'accord. Oui, mais je le disais que c'est de bonne guerre pour ce qui concerne la politique qui a été tellement prisée dans tous les sujets discutés ici au Club de la Presse de ce vendredi. Donatien ?
Oui, ce que plusieurs essaient de feindre, c'est que la politique gouverne et s'assoit sur tout. Les gens vous disent, laissez la politique parler du social. Le social est gouverné par la politique parce que ce sont les politiques qui décident et ça s'imprègne dans la société. Donc ici, quand on reprend encore cette définition de Abraham Lincoln qui dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pas le peuple pour le peuple, je me demande où est pas le peuple là. Le peuple là, il y a plusieurs ici au Togo, sur ces années que nous sommes en train de traverser, plusieurs veulent aller au paradis, mais ne veulent pas faire l'expérience de la mort. Et quand on parle de l'opposition, j'aimerais bien qu'on clarifie que l'opposition est plurielle. Ne mettez pas les oignons et puis l'ail ensemble pour dire qu'ils sont tous les mêmes choses. Donc, dire que l'opposition commet des erreurs, c'est certaines parties de l'opposition. Je dis certaines parties, je ne parle pas du parti. Donc, il ne faut quand même pas qu'on décourage ceux-là qui font quand même de leurs efforts. Il y en a, on sera ingrat pour ne pas reconnaître. Certains vont voir ces détenus politiques qui les assistent.
D'accord, merci. Merci, Donatien. Thierry, rapidement, 30 secondes.
Non, tout est clair. Nous, tout ce que nous demandons, c'est qu'on puisse travailler à développer ce pays. C'est que le bien-être du peuple togolais puisse préoccuper au plus haut sommet du pays. Et c'est tout ce que nous demandons.
D'accord. Oui, finalement, vous avez été interpellé à notre reprise.
Merci. Je vais dire deux choses. Vous savez, depuis un moment, je dis que sur le plan politique, je ne critique plus le régime. parce que la politique ainsi favorise l'intelligence de la politique. Lorsque vous avez le pouvoir, votre première ambition, c'est de le conserver. Et c'est ce que le régime fait. Et quand on dit le régime doit appeler à une assise nationale, nous, on a fait la conférence nationale, comment ça a été géré. Mais moi, j'ai juste compris qu'en réalité, le régime en face est en face d'une opposition qui n'a pas trop envie de conquérir le pouvoir. L'opposition n'a pas envie de conquérir le pouvoir, c'est pour cela que le régime se comporte comme cela. Et puis, quand on dit le fonds d'assise à tout prix, qui lui a donné? Qui a donné à fonds d'assise ce qu'il a aujourd'hui comme pouvoir? Sur les Togolais. Les Togolais appellent ici, non, fonds d'assise, non, le régime n'a pas ceci, pas cela. Mais le jour du vote, si vous allez le quartier, le bureau de vote, vous allez vous demander si les Togolais critiquent vraiment fonds d'assise. Moi, je me suis baladé ici à Lomé, dans plusieurs centres de vote. Mais j'ai dit, mais les Togolais, ils sont sérieux. Il a dit, les gens qui critiquent, ils attaquent. Mais on finit ce soir, ils vont tenir. Mais ils vont tenir. Nous sommes tous hypocrites dans ce pays. On n'est pas cessés. Nous sommes hypocrites. Et nous méritons les dirigeants que nous avons.
D'accord. Merci, Firmin, pour cette réponse. Nous allons terminer cette émission en toute douceur avec la musique. Damien Omizoubou, bonjour.
Et bonjour Pascal.
Cette voix est bien reconnue quand même par tout le monde. Alors, vous êtes alors dans nos murs, dans notre studio ce matin pour parler de cet événement, le bal EPIP, qui aura lieu demain, samedi 21 à Assoukopé.
Voilà. Alors, et depuis la prise de la pièce sacrée, eh bien, l'orchestre Sabasso de Lomé a commencé sa tournée dans les lacs et nous avons démarré notre première soirée à Zidé, dans un cadre festif qui s'appelle Écomusée. Et après Zébé, on a fait le tour du côté d'Enfoin, c'était samedi dernier, et ce week-end, c'est-à-dire demain, nous allons nous retrouver à Assoukopé, à la place des fêtes Gamesou. Donc l'Orchestre Sabasso animera une grande soirée récréative pour célébrer avec le peuple gain à travers une belle ambiance de musique.
Alors concrètement, comment ça va se passer? Il faut quand même qu'on ait aussi une idée de cela. Tu nous mets peut-être alors de l'eau à la bouche.
Voilà, et des surprises à ce rendez-vous. Eh bien, et nous allons faire le mélange au niveau de la programmation musicale. Et nous allons jouer les chansons d'hier et les chansons d'aujourd'hui. Et il y aura des petits cadeaux à donner à travers des petits jeux pour amuser un peu les vélomanes qui feront le déplacement demain samedi du côté d'Assoukopé. Mmh. Et puis, bien avant cette soirée, il y aura un match de foot à Assoukopé entre les fils et filles de la localité.
De la localité.
Et venus et d'ailleurs.
D'accord.
Voilà et ce que je peux dire pour demain. Et nous invitons et toute la population des lacs et d'ailleurs à prendre part donc à cette belle soirée historique.
D'accord. Donc, l'appel est lancé à tout le monde, et surtout les fils et filles, alors des lacs, d'assister ou de venir à cette rencontre, cette belle soirée que vous organisez demain à Gamesou, plus précisément à Assoukopé.
À Assoukopé, à partir de 21h, nous démarrons donc cette soirée.
D'accord. Donc, merci d'être passé dans cette émission. Je voudrais également passer par cette occasion pour inviter les uns et les autres à une rencontre tribune citoyenne qui sera animée demain samedi à partir de 15h30 et c'est à Open des Bosses à Balopédo, nom de l'Église catholique. Et ce serait une conférence où il y aura des réflexions, bien sûr, qui seront menées. Il y a deux panels qui seront au cœur même d'ailleurs de cette rencontre. Et il y a d'abord le premier panel qui est Togo, jeunesse et politique entre héritage et renouvellement. Et le deuxième panel, c'est cohésion sociale, citoyenneté et sécurité à l'épreuve de l'intelligence artificielle. Merci, cher confrère, d'être passé alors dans cette émission. Monsieur Kofi, merci d'être passé dans cette émission de l'ancien leçon. Merci. Thierry Afanouko, merci à toi d'être passé dans cette émission. Firmin Takouabo, merci. Doyen Aoumezounou, merci aussi d'être passé dans cette émission. Nous allons nous rencontrer demain, samedi, à Assoukopé. C'est bien. Là, le rendez-vous, c'est à partir de 20h, c'est ça?
À partir de 21h.
21h plutôt. D'accord. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. On est à la fin de cette émission. Merci à Kiki Sosa. qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakouta. Je suis Pascal Lussou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, partout vous bien et passez un bon week-end.